Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire. Les assises nationales de la refondation sont au centre des débats au Mali entre prolongation de la transition et organisation des élections dans un contexte d'insécurité. Les acteurs politiques et observateurs sont divisés. Grogne sociale dans le pays, en plus de la grève des agents de santé de l'hôpital Gabriel Touré, celle du personnel de l'hôpital du Pont-Gé a démarré ce matin. Au même moment, les enseignants de l'université de Kabbalah poursuivent leur mot d'ordre de grève qui est en cours depuis octobre. 35 écoles sont fermées dans les communes de Diabali, Dogofiri, Sokolo et Toridagako dans le cercle de Nyono, une situation due à l'insécurité inquiète les acteurs scolaires locaux lancent un cri de cœur aux autorités nationales. À la présentation, Adama Madouaïdara. Comme annoncé dans les titres, les assises nationales de la refondation continuent d'alimenter les débats au Mali. La prolongation de la transition dépendra-t-elle de ces assises? Les autorités indiquent que cette question ne figure dans aucune des thématiques de ces assises. Mais certains acteurs politiques pensent que ces concertations ne visent qu'à proroger la durée de la période transitoire. Moussa Malé Sissoko.
Au ministère de la Refondation de l'État, on soutient que ces assises sont une réponse à la mauvaise gouvernance qui a existé dans le pays depuis des années. Pour Sidi Oumar Cissé, représentant du ministère de la Refondation, aucune thématique de ces assises ne fait mention du délai ou de la prorogation de la transition.
C'est l'ensemble des forces vives de notre pays, tous les partis politiques, les légitimités traditionnelles, et c'est eux qui ont défini qui et qui devrait participer à ces assises-là. Si vous constatez des points qui ne sont pas mentionné, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Les 13 thématiques qui sont au niveau des termes de référence ne parlent pas de cette durée de transition, encore moins de la prorogation de la transition.
Pourtant, Sekou Niamé Batili prête aux autorités l'intention de proroger la transition à travers ses rencontres. Le chargé de la communication du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie déplore la méthode d'organisation de ces consultations.
Les termes de référence n'ont pas parlé de délai, mais le Premier ministre officiellement a dit que le délai de la transition dépend des assises. Donc déjà, le décor est planté pour que les gens discutent de cela. Et c'est l'objectif.
Quant à Adam Diko de la mission d'observation électorale du Mali, elle pense que les résolutions des assises nationales ne devront pas être imposées aux futures autorités du pays. Notons que la phase communale des assises a pris fin le 12 décembre et l'étape des cercles est prévue du 15 au 16 décembre 2021.
La commission d'organisation des assises estime que les travaux se sont bien déroulés dans l'ensemble des communes du Mali. Selon la commission, les travaux ont eu lieu dans 649 communes sur 670 identifiées. Ces responsables rassurent que des dispositions ont été prises pour les communes qui ont accusé du retard ou dans lesquelles ces concertations ont été empêchées. Mamadou Hashim Koumaré, président de la commission d'organisation des assises nationales de la refondation, il est au micro de Moussa Malé Sissoko.
À peu près 630 communes où ça s'est tenu en date d'hier. Il y a, je crois, 19 communes pour lesquelles nous n'avons pas eu encore les résultats, mais ça s'est tenu et les gens étaient préparés. Les gens connaissaient les sujets et ils ont été directs. On avait déjà développé sur les 13 documents thématiques les problèmes, les conséquences et les solutions. On les a laissés librement les discuter et j'avoue qu'ils ont mené des réponses idoines à certaines des questions. Mais ils ont pu traiter les 13 thématiques directement pendant les 2 jours, sans aucun problème. Il y a eu des localités, ils ont décalé d'un jour ou de 2 jours, mais ça n'aura pas d'impact sur le calendrier parce qu'on avait laissé déjà 3 jours entre les communales et au niveau du cercle, donc ce qui fait que ça n'a pas du tout touché.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Conseil des affaires de l'Union européenne a décidé hier de sanctionner les personnalités qui feraient obstacle au processus de la transition. Les personnes ciblées et les entités maliennes ne pourront plus bénéficier d'aides financières provenant de l'espace européen. Cette mesure vient en appui aux sanctions préalablement prises par la CEDEAO. En revanche, l'Union européenne a sanctionné la société de sécurité privée russe Wagner. Hawa Berthe.
Cette sanction consiste à procéder au gel des avoirs, suivi d'une interdiction de voyage pour toutes les personnalités maliennes qui feraient l'obstruction au processus de la transition. Ce régime de sanctions lié au Mali fait suite aux sanctions de la CEDEAO, qui ont visé plus de 140 personnalités maliennes. L'annonce a été faite dans un communiqué publié hier lundi 13 décembre à Bruxelles. Cependant, ce document précise qu'à ce stade, aucune personne ou entité n'est répertoriée. L'Union européenne souligne qu'elle continue d'être aux côtés des peuples du Sahel et réaffirme son attachement au strict respect de l'état de droit, des droits de l'homme et du droit international humanitaire au Mali. Cependant, la CEDEAO et l'Union européenne demandent aux autorités de la transition de poser des actes concrets pour organiser les élections le 27 février 2022. En revanche, les ministres européens ont également approuvé un cadre juridique leur permettant de sanctionner le groupe Wagner, 8 personnes et 3 entités qui lui sont liés au cours de cette réunion.
Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad HCIA accuse la force française Barkhane d'avoir tué un de ses officiers. Selon les responsables du groupe armé signataire de l'accord de paix de 2015, l'officier, en la personne de Eglas Agbabay, accompagné d'un jeune homme de 16 ans, ont été tués par une frappe aérienne de Barkhane. C'était le samedi 11 décembre dernier dans la région de Kidal. L'état-major des armées françaises est récuse. Sur RFI, il affirme que la frappe n'a que des présumés djihadistes. La grogne sociale s'intensifie dans le pays. Les agents de santé du centre hospitalier universitaire de Point G entament ce mardi 14 décembre une grève de 4 jours. Ce mouvement de grève précède à celui du personnel de l'hôpital Gabriel Touré démarré hier. Cependant, c'est le statu quo à l'université de Kabbalah, selon les responsables syndicaux de l'enseignement supérieur, en grève depuis octobre. Le point avec Draman Meiga.
Après le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, c'est le personnel de l'hôpital Point G qui entame une grève de 4 jours ce mardi 13 décembre. Le syndicat du personnel de Gabriel Touré porte 13 points de revendication, dont le paiement des primes et l'amélioration des conditions du personnel à faire face à la COVID-19. À Point G, les syndicalistes réclament l'amélioration du plateau technique et plusieurs autres points. Cette grève de 4 jours sera reconductible le lundi selon les responsables si leurs doléances ne sont pas satisfaites. En plus de la santé, l'autre secteur frappé par cette grogne sociale est l'éducation. Les responsables syndicaux de l'enseignement supérieur à l'université de Kabbalah déplorent un statu quo qui dure depuis le mois d'octobre. Rappelons que la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, DGCC, est aussi en grève illimitée depuis le 22 novembre dernier.
35 écoles sont fermées dans le cercle de Nyono à cause de l'insécurité. Ces chiffres sont donnés par les autorités scolaires de la localité. Les écoles fermées sont principalement situées dans les communes de Diabali, Dogofiri, Sokolo et Toridarako. Cette situation inquiète les acteurs de l'éducation locale qui demandent aux autorités de trouver toutes les voies et moyens afin de réouvrir ces écoles. Khalifa Goïta, notre envoyé spécial à Nyono.
À Nyonoville, cette année, comme d'autres, la rentrée n'a pas été effective dans plusieurs endroits du cercle. Une situation qui s'explique par diverses raisons selon le directeur de Nyono Second Cycle A, Modiboka Traoré.
Vu le mot d'ordre de la synergie des Sénégalais, les propositions de passage n'ont pas été vite libérées. Il y a eu des déplacés. Les autorités communales ont trouvé les écoles comme lieu d'hébergement. Le démarrage a pris un peu de retard. Je suis en déficit d'enseignants.
Et pourtant, les responsables scolaires locaux rassurent que des efforts sont faits, tant bien que mal, pour orienter les enseignants et élèves déplacés. Chaka Togola, directeur adjoint du centre d'animation pédagogique de Nyono.
Quand ces écoles étaient fermées, on a entamé des démarches. Les jeunes ont essayé même de les appuyer, mais ça n'a pas marché. Ces enseignants-là, il faut les redéployer. C'est ce qu'on a fait. Les élèves sont déjà répartis dans les écoles de ville. C'est frustrant. Si l'enfant ne travaille pas dans les bonnes conditions, ça fait très mal.
Notons qu'au moins 35 écoles sont fermées dans le cercle à cause de l'insécurité. Sur place, plusieurs enfants dans les localités concernées perdent de plus en plus espoir en leur cursus scolaire. De Nyono, Khalifa Guita pour Studio Tamani.
Merci Khalifa Goïta. La cérémonie de lancement des activités de la 5e édition du Festival panafricain de la cotonnade à FEPAC a eu lieu ce lundi 13 décembre 2021 à Bamako. Cette année, le thème choisi est la transformation locale du coton, source de création d'emplois et de développement durable. Cette édition qui se tiendra à Kita est prévue du 23 au 26 décembre 2021 selon les organisateurs. Kita a été choisi en raison de la position qu'occupe le cercle dans la culture du coton au Mali, précisent les organisateurs. Le compte-rendu avec Aissata Diarra.
L'un des objectifs de ce festival est d'encourager la culture du coton. Il vise aussi à valoriser la transformation à travers les pays. Abdirahman Sy, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton.
Cette année, nous avons demandé au gouvernement d'apporter maintenant des solutions en termes d'assurance agricole, que tous les producteurs du coton puissent être assurés à travers l'assurance en mots. Cela va permettre de réduire l'intégrisme violent, de pouvoir encourager les jeunes à s'intégrer dans tout ce qui est vision de l'entrepreneur agricole, chose qui va donner une augmentation de la production nationale.
Le gouvernement dit espérer que ce festival servira de source d'inspiration et de motivation pour les jeunes agriculteurs et entrepreneurs dans la création d'emploi. Yuba Ba, ministre délégué auprès du ministère du Développement Rural, chargé de l'élevage et de la pêche.
Les festivaliers assisteront et participeront à des débats menant vers le retour à la terre. Les panélistes dévoileront les mesures et les stratégies à développer pour passer d'un taux de transformation locale de notre coton n'atteignant pas 2% à un taux de 15% dans les années à venir.
Le président de l'APK, Mossanoussi Bouyassila, regrette que le Mali ne consomme que seulement 2% de ses productions nationales. Alors, il interpelle les autorités à valoriser l'industrie de la mode, car selon lui, c'est l'une des solutions rapides pour réduire le chômage dans les pays.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
En région à Sadiola, dans le cercle de Kai, une rencontre entre les jeunes et le préfet de Kai s'est tenue le vendredi dernier. Elle visait à apaiser les tensions apparues entre les jeunes au sujet du conseil local de la jeunesse. Après des échanges, le préfet s'est réjoui de l'engagement de la jeunesse de Sadiola pour faire face aux défis du moment. Il a invité le président du conseil local des jeunes à multiplier ces genres de rencontres. Avant de clore ce journal, le grand dialogue de ce soir est délocalisé. Il se tient à Tombouctou et c'est sur la situation sécuritaire dans la région. C'est une présentation de Sekou Gadjigo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne quittez pas tout de suite la question A. L'Union européenne ne devrait pas prendre des sanctions contre le Mali par les voies de la CEDEAO. C'est l'avis de Balandia Kité, politologue et chercheur. Selon lui, il s'agit de deux organisations différentes qui ne jouent pas le même rôle. Il affirme aussi que les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des autorités maliennes pourraient avoir d'énormes conséquences sur le plan économique. Quelles peuvent être ces conséquences? Cette situation peut-elle déteindre sur les relations entre la représentation de l'Union européenne et les autorités maliennes? Les réponses dans cet entretien avec Balandia Kité, joint par Aissata Diarra.
D'abord, il faut parler sur le plan économique. Les sanctions de l'Union européenne peuvent avoir un impact considérable sur l'activité économique de notre pays, dans la mesure où c'est quand même une organisation qui finance beaucoup les projets de développement au Mali.
Alors, mais est-ce que ça peut jouer sur le lien qui se trouve entre les représentants de l'Union européenne et les autorités du pays?
Institutionnellement, oui. Le représentant de l'Union européenne au Mali est très engagé sur les questions sécuritaires, sur les questions de développement. Institutionnellement, il est là en tant que représentant de l'Union européenne. Si l'Union européenne ne s'entend pas avec les autorités maliennes, certainement que ça aura un impact sur ses relations diplomatiques avec le Mali.
Mais alors, en cas d'autres sanctions de la CEDEAO, est-ce qu'il faut s'attendre à l'application de ces mêmes sanctions par l'Union européenne?
Mais bien sûr, c'est ça le paradoxe en fait. Parce qu'en réalité, l'Union européenne ne devrait pas prendre des sanctions par la voie de la CEDEAO. Parce parce que la CEDEAO est une organisation régionale qui est située en Afrique. Les sanctions que la CEDEAO peut prendre contre le Mali, ce sont des sanctions qui sont justifiées parce que nous sommes liés à la CEDEAO par un droit communautaire. Mais le Mali n'est pas lié à l'Union européenne par un droit communautaire. L'Union européenne est un partenaire économique pour le Mali. Et en tant que partenaire, lorsqu'il y a effectivement des problèmes de vision ou des problèmes d'appréciation entre les partenaires, ben on suspend tout simplement la coopération le temps qu'on puisse trouver un terrain d'entente, à mon avis. Surtout que ces sanctions de l'Union européenne viennent sous prétexte que le Mali n'a pas respecté le calendrier électoral. Pourtant, respecter le calendrier électoral relève des questions de politique interne. Les politiques internes, ce sont des questions de droit souverain pour chaque État souverain. Et donc, de ce point de vue, l'Union européenne, par ces sanctions-là, il s'immisce effectivement dans les affaires internes du Mali. Du point de vue juridique, du point de vue du droit international, ce sont des sanctions qui ont du mal à s'expliquer.
Alors, mais si cela se passe, quelles peuvent être également les conséquences?
Non, mais les conséquences sont énormissimes. D'abord, sur le plan diplomatique, les gels des avoirs, l'espace Schengen soit interdit à nos officiels. Un État moderne aujourd'hui ne peut pas vivre en autarcie. Il faut que les officiels puissent aller dans d'autres États, tisser des liens de coopération, des liens de partenariat.